Frères et sœurs, bonjour. C'est une grande joie de vous voir tous ensemble. On était habitués à des petits morceaux d'assemblée. On pensait que c'était un puzzle. Hein. Et ce matin, les places qui étaient vides sont remplies. Et ce n'est que le début. Nous crions à Dieu pour que la grâce du Seigneur agisse et que ce monde soit gardé de la contamination. Vous croyez que Dieu peut le faire? Frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible, si vous le voulez, parce que dans un culte, il faut honorer la parole de Dieu et honorer aussi et surtout celui qui, dans la parole de Dieu, a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Son nom, c'est le pasteur. » Jésus est un pasteur aussi, mes frères. Mais le grand, celui qui a dit cela, il s'appelle Amen. Et il est toujours présent là où deux ou trois sont assemblés. Êtes-vous heureux de le connaître?
Oui.
Comme le dit un vieux chant, « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer !» Frères et sœurs, on va ouvrir un livre, n'ayez pas peur. C'est un livre qui fait peur aux gens qui n'ont rien compris. On va ouvrir le livre le plus impressionnant. Oui, pasteur Gentil a déjà trouvé, il aura le droit à un euro. Le livre de l'Apocalypse, ça vous ennuie pas, non? Qui répond à une grande question. Que faut-il faire quand sur la terre, tout nous est fermé, bloqué? Sur la terre, on se trouve sans espoir. C'est vrai pour nos familles, c'est vrai pour notre corps malade, c'est vrai aussi pour nos affaires, pour tout. Il arrive des moments, je sais pas si c'est connu par vous, on a l'impression que quoi que ce soit qu'on fasse, tout est fermé. Alors on prie, tout est fermé. On jeûne, tout est fermé. Et on aurait tendance, eh bien, à se décourager. Or, j'aimerais vous montrer ce qui se produit dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Quand tout lui est fermé, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors on l'ouvre, allons-y. Apocalypse chapitre 1er, pas bien difficile à trouver, dernier livre de la Bible, chapitre 1er verset 9. Nous allons dire à peu près une dizaine de versets. Apocalypse, révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 1er verset 9. Je commence si vous le voulez bien. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la neige, comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds, semblable à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans la fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage, il était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombait à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises, et nous pouvons dire,
Amen.
Mes frères et sœurs, on se trouve là devant un texte tout à fait remarquable. Jean, quand il écrit ce texte, quand il a cette révélation, il se trouve dans une situation particulièrement difficile. Il y a des amis, pas vous parce que vous êtes parfaits, mais il y a des amis, il leur faut une certaine ambiance. Et s'il y a une certaine ambiance, ça va. Si tout est simple pour eux, ça va. S'il n'y a pas un coup de tempête, un coup de vent, tout ça, ça va. Mais quand il y a des difficultés qui s'abattent, alors là on voit la foi des uns qui tient le coup, on voit la foi des autres qui s'écroule. Alors ce texte, frères et sœurs, répond à toutes ces questions, car il nous montre un homme, Jean, votre frère qui dit, qui se trouve dans une situation fermée. Il est dans l'île de Patmos. Et Patmos, c'est l'île qui est réservée par les empereurs comme un bagne, vous savez, comme en Guyane. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'étais impressionné lorsque j'ai visité le bagne de Guyane. On imagine la souffrance. Enfin, certains, bien sûr, étaient des criminels, mais il y en avait d'autres qui étaient là, tout simplement innocents. Il vit dans un bagne, éloigné de tout chrétien, de toute église. Il vit confiné dans une petite île qui est relativement petite. Je crois qu'elle fait 16 kilomètres d'un sens et 4 de l'autre. Tout petit, un rocher. Et ses amis, ceux qui l'entourent, c'est des brigands, c'est des bagnards. Ouais. Enfin, il était mal entouré, il était isolé, il était tout seul. Et mes frères et sœurs, ça a duré des années. Ça a duré des années au point que, quand il écrit l'Apocalypse, il y a déjà des églises de fondées, Éphèse, Philadelphie, Sardes. Il les écrit. Il y a déjà 7 églises qui ont été fondées. Et donc ça représente du temps. Ça fait longtemps qu'il est là, Jean. Et un petit peu comme nous qui dit Seigneur, jusque à quand? Quand on me dit sans cesse, hé, où est ton Dieu? Ou que fait ton Dieu? L'air de dire, il n'y a pas de Dieu. Jean est là depuis des années, isolé, séparé, mal entouré, et rien ne s'ouvre. Sur la terre, pour lui, tout a fermé. Mais, si vous lisez Apocalypse 4, 1, vous trouverez un petit secret. Jean dit, je vis le ciel ouvert. Mes sœurs, frères et sœurs, quand sur la terre, tout se ferme, pour nous tous, le ciel s'ouvre. Vivre avec Jésus dans le ciel. Oui, il a vu le ciel ouvert. Quelle grâce! Et c'est ce qui va lui permettre de découvrir 4 grandes vérités que j'aimerais partager avec vous si vous vous trouvez dans une situation semblable. Voyez-vous donc, il est dans la détresse, il le dit, dans la tribulation. Il est déporté, il est confiné, il est tout seul et il dit, je suis là à cause de ma foi. C'est parce qu'il croit en Jésus et qu'il proclame la grâce de Dieu qu'il est enfermé avec les bagnards. Donc voyez-vous, il a tout pour être découragé. Il a tout pour abandonner. Et pourtant, il nous donne le livre capital, aujourd'hui et à travers tous les siècles, le livre des révélations de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Alors voyez-vous, il n'y avait pas d'ambiance, hein. Il n'y avait pas de la belle musique. Il n'y avait pas des projecteurs avec de la couleur. Il n'y avait pas un concert d'art dramatique, mais vraiment tout seul. Et Dieu a choisi ce moment-là pour lui ouvrir le ciel. Maintenant, je m'adresse à vous, mes frères et mes sœurs, qui passez par ces moments difficiles où vous avez l'impression que le ciel vous est fermé, il n'y a pas de réponse. C'est vrai pour votre santé, c'est vrai pour la conversion de vos enfants, c'est vrai pour votre travail, c'est vrai pour votre présent, c'est vrai pour votre avenir. Alors si tout est fermé, le Seigneur m'a dit de vous dire que lorsque la terre se ferme, le ciel s'ouvre. Pour chacun d'entre nous, et particulièrement ce matin, pendant que nous sommes au culte. Frères et sœurs, regardez. Le ciel s'est ouvert. Et c'est écrit, il dit, moi Jean, qui n'a plus rien, il n'y a plus personne autour de moi, il n'y a même pas Luc, il n'y a même pas Timothée, il n'y a personne. Eh bien regardez ce qu'il dit au verset, moi je trouve magnifique ce petit verset 10. À ce moment-là, dit-il, ce jour-là, je fus ravi par l'Esprit. Il n'a plus personne, mais il a le Saint-Esprit. Car Jésus a dit, nous recevrez le Consolateur afin qu'il demeure quand éternellement avec vous, jour et nuit, dans le moment facile et difficile, il est là. Et le Saint-Esprit ce matin est là. Il est là avec nous, en nous et pour nous. Merci Seigneur. Je le dis bien fort pour que le diable écoute. Il fut ravi en esprit, ce qui prouve bien que tout était fermé. Il y avait que l'Esprit de Dieu qui pouvait agir. Et non seulement il a été ravi en esprit, mais il a dit, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai mes yeux, oui, mes oreilles, il y avait de la musique. J'étais même invité à monter plus haut, j'ai vu un trône, j'ai vu de la lumière de tous côtés. Et puis j'ai vu l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, quel magnifique message Jean nous montre ici. Il nous montre que lorsque tout se ferme, le ciel s'ouvre pour que nous voyons ni la Vierge, ni les saints, mais Jésus-Christ. Et alors, à ce moment-là, bien des choses vont changer. Rappelons-nous qu'une des prières de Jésus, je crois que c'est dans Jean 17, avant qu'il parte, il a dit, Père, je veux que ceux qui sont à moi voient ma gloire. Eh bien là, Jean va voir la gloire de Dieu, alors qu'autour de lui, c'est la détresse et la tribulation. Il va voir la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu, qui sait? C'est Jésus-Christ ressuscité, c'est Jésus-Christ glorifié, c'est Jésus-Christ élevé. Voilà pourquoi l'apôtre qui a écrit les Hébreux dit, fixez vos yeux sur le chef et le consommateur de votre foi, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Un des aspects numéro un occulte, c'est les yeux sur Jésus. Et c'est en regardant sur Jésus. Et ça m'a fait du bien de savoir que le pasteur Gentil, il a parlé là-dessus hier. Hein? Le regard. Mes frères et sœurs, le regard. Ah, la pauvre maman, la femme de Lot. Elle regardait partout, sauf un endroit qu'il fallait pas. Elle était statue de sel. C'est arrivé à Pierre, remarquez bien. Quand il marchait sur les eaux, et qu'il regardait Jésus, ça allait. Et quand il a commencé à se regarder, et à regarder les circonstances, il a coulé. C'est pour ça que le Seigneur me charge de te dire que si tout est fermé, si les circonstances sont défavorables, c'est à ce moment-là que le ciel va s'ouvrir, ce matin, sur ton âme, sur ta famille et sur ton cœur. La présence de Jésus, et ce qui est magnifique, c'est qu'il connaît Jésus. Il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Et quand il était sur la terre, il mettait sa tête sur le côté de Jésus, sur le sein de Jésus, d'accord? Il était proche de Jésus. Si bien quand Jésus a dit, je vais être renié, les apôtres disaient à Jean, toi qui es à côté de lui, dis-nous. Voyez-vous? C'était un intime de Jésus. Or là, regardez bien, quand il voit ce qu'il voit, le chant, ça le gêne pas. La lumière, ça le gêne pas. La musique, ça le gêne pas. Mais quand il voit la gloire de Jésus, ce Jésus qu'il connaissait tant, il tombe mort par terre, parce que là, il a les yeux fixés sur la gloire du Seigneur. Et nulle chair, sans la grâce de Dieu, ne peut voir la gloire de Dieu. C'est écrit, tous ont péché. Mais mes frères et sœurs, c'est pas excessivement unique pour Jean. Tenez, un homme comme Daniel, prophète, Daniel, rappelez-vous, hein? Il n'avait pas peur de Nabuchodonosor, lui. Le roi terrifiant, le roi fou et orgueilleux, il lui résistait en face. Daniel, il n'est jamais tombé mort devant Nabuchodonosor dans toute sa gloire. Daniel s'est retrouvé devant les lions, il s'est pas agenouillé devant les lions en disant « Gentiminé, gentiminé ». Il n'avait pas peur des lions. Mais quand Daniel rencontre la présence de Dieu dans le dernier avant-dernier chapitre de son livre, il tombe comme mort. Parce que là, il voit la gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais attention, je veux voir ta gloire. Et voyez-vous, la première chose que le Saint-Esprit veut nous montrer ce matin, alors que tout est fermé autour de nous, qu'il y a un blocage total, on ne sait pas comment on va s'en sortir financièrement, il est capable de nous dire, regarde ma gloire. J'ai la gloire, j'en suis servi en prenant un cadavre qui sentait mauvais, qui puait, et j'en ai fait un être vivant. C'est cette même gloire que le Seigneur a ce matin pour chacun d'entre nous. Regardez vers lui, frères et sœurs, et découvrez cette grande vérité que, dans toute sa gloire, on ne peut pas s'approcher du Seigneur n'importe comment, les mains dans les poches, mal tenues. Moi, je sais pas, mais si le président de la République venait m'inviter à l'Élysée, j'irais pas en short. Question de respect. Et je crois que dans un culte, on doit respecter la présence de Dieu. Le Seigneur est bon, infiniment bon, c'est pas un copain. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est mon ami. Il est mon frère. Mais il est Dieu. Alors je dois respecter sa présence. Et même en la respectant, voyez-vous, il tombe mort. Et ce qui se passe, c'est que Daniel qui tombe mort, il dit, alors il posa sa main droite sur moi, sur mon épaule. Il posa sa main sur mes genoux et les forces me revinrent. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jean. Regardez, il est carrément à plat, terrassé par la peur, mais la grâce de Dieu. Vous savez pourquoi ces gens-là étaient terrassés par la peur? Eh bien, je crois que c'est Ésaïe et Job qui nous le dit. Ésaïe, un jour, dit, « Malheur à moi ! J'ai vu la gloire de Dieu. Je suis un pécheur. » Job a dit, et ça, j'ai trouvé que c'est une bonne parole aussi, Job, il dit, « Maintenant, mon œil t'a vu, je me condamne parce que je t'ai vu, et devant toi, je suis rien. » La gloire de Dieu, mes frères et sœurs, elle élève le Seigneur et nous fait comprendre que nous sommes des pécheurs et que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est par grâce qu'il nous accepte dans sa présence. Si vous êtes là, si je suis là, si nous sommes là, c'est sa grâce qui nous a réunis. Et comme on le chante des fois, à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Comment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il voit donc le Seigneur. Il voit sa présence et sa gloire. Et frères et sœurs, ce qui est important, c'est de nous apercevoir que on voit pas toujours ce qui se passe dans le ciel, mais ce texte nous montre ce qui se passe dans le ciel. On s'aperçoit que le Seigneur s'intéresse profondément aux choses qui sont sur la terre et aux difficultés des uns et des autres. Regardez Étienne, acte 7, qui est arrêté. Il n'y a personne pour le défendre. Il est entouré d'assassins, de méchants. Il les insulte pas. Mais il est écrit, Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au-dessus des grimaces des hommes. Et il dit, je vois la gloire de Dieu. Je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Les ennemis sont terrifiés. Mais Étienne est glorifié. Il dit, je vois les cieux ouverts. Ma sœur, mon frère, ce matin, pendant la Sainte Cène, fixe tes yeux sur Jésus. Quand tu vas prendre le pain, c'est pas simplement un peu de farine. Le vin, c'est pas un peu simplement du raisin. Le vin, c'est ce qui représente pour chacun d'entre nous le sang qui nous purifie de tout péché et qui nous permet de nous approcher de la gloire de Dieu. Si je lis ma Bible, je m'aperçois qu'il ne faut jamais, frères et sœurs, caler notre expérience sur l'expérience d'un autre. Regardez, acte 4. N'hésitez pas, je vais vous le rappeler. Les deux apôtres, Pierre et Jean, sont mis en prison suite au miracle du boiteux. Et ils passent toute la nuit en prison. Est-ce que le Seigneur a ouvert la porte? Non. Nous sommes d'accord. Il n'a pas ouvert la porte, donc ils ont passé la nuit en prison. Hérode fait arrêter Jacques. Et Hérode décapite Jacques. Seulement, regardez bien. Quand les apôtres sont en prison, à un certain moment dans une autre période, acte 12, la veille de faire décapiter Pierre, il est écrit que dans la prison, il y a quelqu'un qui veut ouvrir toutes les portes, qui est quelqu'un qui a fait tomber toutes les chaînes. Cette personne, c'est le Seigneur Jésus. Donc, voyez-vous, il faut pas. Ce qui arrive à l'un n'est pas obligatoirement à l'autre. Et quand on vous dit, oui, mais tu sais, un tel est mort, et ça a rien à voir. Dieu fait ce qu'il veut. Et sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Et frères et sœurs, je voudrais aussi vous rappeler que il a vu la gloire de Dieu et il est tombé. Maintenant, je vais vous poser une question, vous allez me répondre. En deux mots, il est tombé où? Dites-le. Au pied de Jésus. Car quand le diable nous fait tomber, c'est... Merci. C'est pour nous éloigner, c'est pour nous paniquer. Mais quand on tombe au pied du Seigneur, à ses pieds, à tes pieds, ô divin maître, c'est là que l'on est béni. Dites-moi, Matthieu, on mettait les malades à ses pieds, et il est très bien. Regardez, si vous lisez les évangiles et vous connaissez ce passage, je vérifie. Jairus, il va perdre sa petite fille. Il se met où? Au pied de Jésus. La femme, atteinte d'une perte de sang, elle se met où? Au pied de Jésus. La mère syro-phénicienne dont la fille était possédée, elle se jette aux pieds de Jésus et chaque fois, il les a relevés en leur accordant la grâce. L'homme de Gadara, possédé par le diable, agité, tourmenté, quand Jésus le délivre, où est-il assis? Aux pieds de Jésus. Marie de Béthanie, quand elle reçoit Jésus chez elle, et quand elle accepte dans sa vie, vous la remarquerez, elle écoute à ses pieds. Quand il faut pleurer parce qu'elle a perdu son frère, elle se jette à ses pieds. Et quand elle rentre dans le culte d'adoration, elle répand un parfum sur ses pieds. Cela veut dire, frères et sœurs, que quoi que ce soit que nous passions, quoi que ce soit que nous connaissions, si nous regardons vers Jésus, par la grâce du Seigneur, il va nous relever. Sa présence qui nous accable, dans le bon sens, bien sûr, c'est une présence qui nous élève. La terre est fermée, mais le ciel est ouvert. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, regardez bien, après ça, il est écrit ceci, au moment où il est tombé comme mort, verset 17, « Quand je vis cela, je tombais à ses pieds comme mort. » Il posa sa main sur moi, sa main droite, et il m'enfonça. Et il dit, homme de peu de foi, il mit sa main, la main gauche ou la main droite? Image de la puissance. Hein. Et après avoir mis sa main, il lui a parlé. Ainsi, nous avons la présence de Jésus ce matin, mais nous avons aussi le geste de Jésus. Un geste qui sort de sa bouche et qui contient des mots très simples. Ne crains point. Enfant de Dieu, ne crains point. Dans toutes les circonstances que tu peux traverser, ne crains point. Ne crains point. Ne crains point. Car toutes choses concourent ensemble au bien de celui qui aime Dieu. Je veux le dire et l'affirmer. Frères et sœurs, si vous lisez, vous allez trouver cette belle vérité. Il posa sa main droite. Et sa main droite, c'est la main de la puissance. C'est la main qui guérit. C'est la main qui sauve pendant 3 ans et demi. Sa main n'a fait que du bien.
D'accord.
Puis d'un seul coup, apparaît Caïphe, Anne, le peuple, Pilate. Et vous remarquerez dans Matthieu, Marc et Luc, il est écrit, ils ont lié Jésus. Ils ont lié ses mains. Mes frères et sœurs, c'est pas le diable qui a lié Jésus. Il avait la trouille, lui. Mais c'est les hommes qui ont levé, qui ont lié ses mains. Ces mains qui nous en font tant de bien au monde. Les hommes les ont liées et les hommes les ont clouées. Mais Dieu l'a ressuscité. Oui, notre incrédulité, mes frères et sœurs. Nos religions et nos idées bloquent les mains de Jésus. Et moi, je me dis que si Jésus a accepté d'avoir les mains liées, c'est parce qu'il l'a bien voulu. Parce que quand il a dit à un certain moment, « Qu'est-ce que vous cherchez ? C'est moi ?» Ils sont tous tombés. Hein. Alors, voyez-vous, cette immense humilité du Fils de Dieu. Je pense que si ça avait été un être humain à qui la police met ça, il se serait débattu. Non. Comme un agneau, comme une brebis muette, il a accepté que ses mains soient liées. Et mes frères et sœurs, dans le ciel, ce sont ses mains qui ont tant béni, qui ont été liées. Mais là, vous voyez, sa main n'est plus liée. Avez-vous remarqué que lorsqu'il est ressuscité, il dit, regardez, ouais, regardez mes mains. Il y a des trous maintenant, mais elles sont vivantes, mes mains. Elles sont encore plus puissantes, parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, donc il y a une parole, une voix plutôt. Sa main qui se pose, et dans sa main qui se pose, il y a une parole, ne crains point. Mais regardez bien. Il y a non seulement ne crains point, mais il y a le pourquoi tu n'as pas à craindre. Vous savez pourquoi? Parce que votre Sauveur a dit, je suis le premier et je suis le dernier. Ça veut dire, hors de moi, il n'y a rien. Hein? Je suis la plénitude, je suis le premier et je suis le dernier. Voilà pourquoi tu n'as pas à craindre. Parce que tu es à moi et je t'appartiens. Ne crains point, je suis le premier, je suis le dernier, je suis l'alpha, l'oméga. J'étais mort, c'est vrai. J'étais. Maintenant, je suis. Et je suis vivant pour toujours. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Mes frères et sœurs, vous êtes comme moi, quand vous écoutez les infos, c'est pas toujours brillant. Et des fois, on a la ratata, je sais pas si j'en ai plus cassé. Et des fois, même je coupe, parce que on n'entend parler que de misère, de souffrance, de douleur, d'incrédulité. On entend des paroles de la terre. Les paroles de la terre, ce sont des paroles qui font peur, qui répandent la crainte. C'est vrai? Mais là, ce matin, j'aimerais vous donner, non pas une parole terrestre, mais une parole céleste. Et la parole céleste, ne crains point. Je suis le premier. Je suis le dernier. J'étais et maintenant je viens. N'aie pas peur. Je suis pas ton ennemi. Je suis pas ton accusateur. Je suis ton sauveur. Je suis ton Seigneur. Merci Seigneur. Je suis ton ami. Tu es mon frère. Tu es à moi. Je suis à toi. Et c'est ce qui va nous amener à pouvoir tout de suite, dans quelques instants, pouvoir l'adorer. Je suis le premier et le dernier. Je disais Seigneur, mais comment tu expliques ça? Ça veut dire, et il a ouvert mes yeux, ou peut-être les vôtres sont déjà ouverts, mais ça a été une découverte, c'est que je suis le premier et le dernier, c'est le titre de Dieu dans l'Ancien Testament. Trois fois dans l'Ancien Testament. Vous pourrez contrôler, c'est dans Psaume 41. C'est le titre complet de Dieu. J'étais, je suis. Or, ce qui est curieux, c'est que dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, Jésus reprend cette vérité trois fois. Pour que ça nous persuade que Jésus est Dieu. Alléluia. Tout en étant le Fils de Dieu. Les deux sont là. Oh Jésus, en toi j'ai tout. Tu es parfaitement Dieu, tu es parfaitement homme. Alors si tu vis en moi, je suis capable de vaincre l'ennemi parce que ta grâce m'accompagne et me fortifie. N'aie pas peur, Abraham, après ton combat, vous savez, dans la Genèse, n'aie pas peur, dit Dieu Abraham. Isaac qui avait débouché des puits et qui était entouré de Philistins, Dieu lui, n'aie pas peur. Et je vais vous dire ce qu'il veut nous dire ce matin. 275 avenue Daumesnil. Qu'est-ce qu'il dit, cette parole céleste? La parole céleste, mes frères et sœurs, nous dit, n'aie pas peur, je suis ton sauveur, ton Seigneur, je suis à toi, tu n'as aucune crainte, j'étais, je suis, et pour toujours. Et voilà la troisième chose. On n'a pas le temps de voir les quatre, c'est pas rien. La troisième chose. Écrit. Frères et sœurs, ça, moi, je trouve magnifique. Quand je l'ai lu, je suis tombé à genoux dans mon bureau tout seul, j'ai dit, Seigneur, tu dis à un homme qui passe par des moments difficiles, écris ce que tu as vu et entendu et donne-le aux leurs. Il va utiliser, mes frères et sœurs, utiliser. Un homme ruiné, séparé, confiné, mis de côté, Dieu va l'utiliser pour nous faire du bien à nous. Écris ces paroles. Elles sont certaines et véritables. Écris-les aux églises. Écris-les à tous ceux qui sont autour de toi. Écris-les. Et il donne les églises qui existaient à l'époque. Cela veut dire que ce message, c'est pour nous, Église de Jésus-Christ. Et cela va nous amener à conclure, frères et sœurs, par cette parole que je voudrais partager avec vous, parce que je la trouve absolument magnifique. Depuis Adam, dit la Bible, la mort a régné. Depuis Jésus-Christ, la mort est vaincue et la grâce domine. Depuis Jésus-Christ. Et quand le diable est en train de vous tourmenter avec la mort, vous lui dites, écoute Satan, ça fait 33 ans que t'es vaincu. Hein, la France a pris un pénalty, c'était un affaire contre la Suisse, mais toi t'es vaincu depuis 33 ans. Alors je vais quand même pas me laisser croquer par un vaincu depuis des siècles et des siècles et des siècles, parce que mon Jésus est vivant. Frères et sœurs, que Dieu nous permette de réaliser que le dernier mot de la Bible, c'est Dieu qui l'a. Et alors, je termine par cette image, je la trouve magnifique. Les étoiles sont dans sa main. Et qui c'est les stars? C'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, elle est dans sa main. Et au 275 avenue Daumesnil, Paris 12e, elle est dans la main de Jésus. Alors vous avez des gens qui viennent, qui partent, qui démissionnent, mais ça ne veut rien dire. Parce que si vous démissionnez de l'Église, c'est comme si vous vouliez sortir de la main de Dieu. Même si vous avez des raisons, je suis là. Car c'est là que Dieu envoie ma bénédiction. C'est pas toujours d'accord avec tout, mais je suis là, je reste là pour glorifier ton nom. Ça, c'est important. Il tient l'Église dans sa main. Et il tient aussi l'ange, les anges. Attention, c'est pas des anges avec des ailes. Les anges, l'apôtre le dira quand il écrit, ce sont le serviteur de Dieu qui est responsable. Le pasteur, responsable. Pas un ange, le pasteur, il est responsable. Alors, le pasteur est dans les mains de Dieu. L'Église est dans les mains de Dieu. Tu dirais, oui, mais enfin, moi, tout seul. Attendez, Jésus a dit, ne crains pas grand troupeau. Merci, mon frère. Ne crains pas petit troupeau. Le Père a jugé bon de te donner le royaume. Petit troupeau. Mais oui, et alors Jésus va même plus loin, il dit, je vous envoie au milieu d'un loup, d'un loup, d'un serpent, d'un scorpion, au milieu des pluriels, et toi, brebis, tu es plus fort qu'eux. Oui, Seigneur, à ton nom soit la gloire. Et tout cela, mes frères et sœurs, parce qu'au culte, à Patmos, en pleine souffrance, en pleine contamination, en pleine crainte, il a regardé vers le ciel, et le ciel s'est ouvert. Et il a entendu une parole du ciel. Cette parole du ciel, je vous la donne, je la répète, ne crains point. Ton Seigneur est le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Cela m'amène à vous proposer. J'avais envie de prier avec vous pour finir, mais je ne veux pas tomber dans les habitudes. Je voudrais vous proposer un petit chant. Vous aimez chanter? Moi aussi. Il y a un chant qui dit, contemplez mon Dieu sur son trône. Vivre avec Jésus dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Tenez, vous avez les paroles qui s'affichent. Vous voulez qu'on chante ensemble? Peut-être on pourrait le chanter debout, avant de nous asseoir entre deux, avant la Sainte-Seine, pour récupérer des forces. contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Je voudrais que tous ceux qui chantent soient tous ceux qui croient. Et tous ceux qui croient que Jésus est vainqueur, chantent avec moi ceci. Contempler mon Dieu. Et alors? Où? Dans le ciel, c'est la même chose. Une nuit à te bénir, oui. Allez-y. Dans le ciel, c'est là.